apprendre comment capturer les auteurs.
Mais enfin, de quoi tu parles?
Je veux savoir comment capturer les odeurs, les enfermer à jamais.
Tu veux dire préserver?
Vous devez m'apprendre ça.
Oui, d'accord. Calme-toi, mon petit. Calme-toi. On a encore beaucoup de travail.
L'âme d'un être et son odeur. Vous aviez dit ça, maître.
Ça peut pas faire de mal.
J'ai dit ça?
Je vous ferai tous les parfums que vous voulez, mais vous devez m'apprendre comment capturer les odeurs de toutes les choses. Vous pouvez le faire?
Eh bien, oui, naturellement.
Alors enseignez-moi tout ce que vous savez, et je vous ferai le meilleur parfum qui soit au monde.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
À l'époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes. Les rues puaient le fumier, les arrière-cours puaient l'urine, les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rat, les cuisines le chou pourri et la graisse de mouton. Les pièces d'habitation mal aérées puaient la poussière renfermée, les chambres à coucher puaient les draps graisseux et le remue-glacre des pots de chambre, les cheminées crachaient une puanteur de soufre, les tanneries la puanteur de leur bain corrosif et les abattoirs la puanteur du sang caillé. Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés, leurs bouches puaient les dents gâtées, leurs estomacs puaient le jus d'oignon et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puaient le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives. Les rivières puaient, les places puaient, les églises puaient, cela puait sous les ponts et dans les palais, le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l'épouse de son maître artisan, la noblesse puait du haut jusqu'en bas et le roi lui-même puait. Il puait comme un fauve. Et la reine, comme une vieille chèvre, été comme hiver. Car en ce 18e siècle, l'activité délétère des bactéries ne rencontrait encore aucune limite. Aussi n'y avait-il aucune activité humaine, qu'elle fût constructive ou destructive, aucune manifestation de la vie en germe ou bien à son déclin qui ne fût accompagnée de puanteur. Le décor est planté. C'est dans ce Paris nauséabond du XVIIIe siècle que naît Jean-Baptiste Grenouille, le plus grand nez du monde. Paru en Allemagne en 1985, avant d'être traduit en 45 langues, Le Parfum est le premier roman de Patrick Süskind, scénariste passionné d'histoire, né en Bavière en 1949. Dans ce roman devenu culte, qui nous ouvre des horizons insoupçonnés, l'auteur raconte la vie de Grenouille, un homme doué d'une exceptionnelle faculté olfactive, devenu parfumeur de génie. Misanthrope, mégalomane, notre héros n'aura de cesse de recréer l'essence de la séduction, quitte à voler des vies au passage. Dans ce roman à la fois très documenté et baroque, Patrick Süskind nous propose une réflexion sur notre animalité et l'influence de la sensualité sur nos vies. Poussant l'empire du sens à son comble, il fait de son héros un demi-dieu terrifiant qui magnétise les hommes en les tenant par le bout du nez. Suivons ce personnage terrible et fascinant qui nous embarque pour un voyage inédit au pays des odeurs. Voyons comment la naissance de notre héros scelle un destin aussi exceptionnel que violent. Né au milieu des pires odeurs existantes et confronté dès ses premières heures à l'abandon, Jean-Baptiste Grenouille développe une capacité de résistance hors norme. Quelques semaines après sa naissance, l'une de ses nourrices découvre chez lui une particularité peu commune qui est un frein à toute possibilité d'attachement. C'est à l'endroit le plus puant de tout le royaume, près du cimetière des Innocents, que vit le jour, le 17 juillet 1738, Jean-Baptiste Grenouille. C'était l'une des journées les plus chaudes de l'année. La mère de Grenouille, quand les douleurs lui vinrent, était debout derrière un étal de poissons dans la rue au fer et écaillait des gardons qu'elle venait de vider. Les poissons puaient déjà tellement que leur odeur couvrait l'odeur de cadavre. Mais la mère de Grenouille ne sentait pas plus les poissons que les cadavres, car son nez était extrêmement endurci. Et du reste, elle avait mal dans tout le milieu du corps et la douleur tuait toute sensibilité aux sensations extérieures. Elle n'avait qu'une envie, c'était que cette douleur cessât. Elle voulait s'acquitter le plus vite possible de ce répugnant enfantement. C'était son cinquième. Tous les autres avaient eu lieu derrière cet étal, et à tous les coups, ça avait été un enfant mort-né, ou à peu près. car cette chair sanguillonnante qui sortait là ne se distinguait guère des déchets de poissons qui gisaient sur le sol, et ne vivait d'ailleurs guère davantage. Et le soir venu, tout cela était balayé pêle-mêle et partait dans des carrioles vers le cimetière ou vers le fleuve. La mère de grenouille souhaitait que tout cela finisse, et quand les douleurs se précisèrent, elle s'accroupit et accoucha sous son étal, tout comme les autres fois, et trancha avec son couteau à poisson le cordon de ce qui venait d'arriver là. Mais voici qu'à cause de la chaleur et de la puanteur, elle tourna de l'œil, bascula sur le côté, roula sous la table et jusque sur le pavé, restant là en pleine rue, le couteau à la main. On crie, on accourt, les badauds font cercle, on va chercher la police. La femme est toujours là, couchée par terre, le couteau à la main, et elle revient lentement à elle. On lui demande ce qui s'est passé. Rien. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec ce couteau? Rien. Et qu'est-ce que c'est que ce sang sur ses jupes? C'est les poissons. Elle se lève, jette le couteau et s'en va pour aller se laver. Mais voilà que, contre toute attente, la chose sous l'étal se met à crier. On va voir, et sous un essaim de mouches, au milieu des entrailles et des têtes de poissons, on découvre le nouveau-né. On le dégage. On le confie d'office à une nourrice. La mère est arrêtée. Et comme elle ne fait aucune difficulté à avouer qu'elle aurait sûrement laissé crever le marmot, comme du reste les quatre précédents, on la traduit en justice, on la condamne pour infanticide réitéré, et quelques semaines plus tard, on lui coupe la tête en place de grève. Quelques semaines plus tard, l'enfant avait déjà changé trois fois de nourrice. Aucune n'avait voulu le garder plus de quelques jours. Il était trop goulu. Il ôtait le lait de la bouche des autres nourrissons et le pain de la bouche des nourrices. La dernière d'entre elles, prénommée Jeanne Bussy, se présenta à la porte du cloître Saint-Méry et s'adressa au père Terrier, un moine d'une cinquantaine d'années. « Tenez, voici le bâtard de l'infanticide de la rue Offert. » Et elle posa le panier sur le seuil. Il s'en voulut d'avoir ouvert la porte. « Mais je ne comprends pas ce que tu veux. J'ai maigri 10 livres, et pourtant je mangeais pour 3. Et tout ça pour 3 francs par semaine. » « Ah, je comprends, dit le moine, presque soulagé. C'est une question d'argent. Combien est-ce que tu veux? 4 francs? Non. Bon, eh bien, disons 5 francs. Non, dit la nourrice, je ne veux pas d'argent du tout. Je ne veux plus de ce bâtard chez moi. Mais enfin, pourquoi, ma bonne, dit Terrier, en fourrageant du doigt dans le panier. Il est possédé par le diable. Terrier retira vite ses doigts du panier. « Impossible. Un nourrisson n'est pas un être humain, c'en est que l'ébauche, et son âme n'est pas encore formée. Il ne présente pas l'intérêt pour le diable. Est-ce que par hasard il parle déjà? Est-ce qu'il a des mouvements convulsifs? Est-ce qu'il exhale une mauvaise odeur? Il ne sent absolument rien, dit la nourrice. « C'est parce qu'il est en bonne santé, s'écria Terrier. Tu voudrais qu'il pue? Non, dit la nourrice, mais il n'a pas l'odeur que doivent avoir les enfants d'hommes. Alors aurais-tu l'obligeance de me dire quelle odeur doit avoir un nourrisson?
« Une bonne odeur, dit la nourrice. »«
Bonne? Mais ça veut dire quoi ?» cria Terrier qui commença à s'échauffer. La nourrice hésitait. Elle savait bien quelle odeur avaient les nourrissons. Elle était même capable la nuit de les trouver rien qu'à l'odeur. Mais jamais encore elle ne l'avait désignée par des mots. « Eh bien !» aboyait Terrier en faisant claquer le bout de ses ongles. « C'est que, n'est-ce pas ?» commença la nourrice. « Ce n'est pas très facile à dire. » Ils ne sentent pas partout pareil, vous comprenez? Prenez leurs pieds, par exemple. Eh bien, là, ils sentent comme un caillou, lisse et chaud. Ou bien, non, plutôt comme du fromage blanc. Ou comme du beurre frais. Oui, c'est ça. Ils sentent le beurre frais. Et le reste du corps sent comme une galette qu'on a laissée tremper dans le lait. Et la tête, là, l'arrière de la tête, où les cheveux font un rond, là, regardez mon père. C'est là précisément qu'ils sentent le plus bon. Oh, là, ils sentent le caramel. C'est une odeur si merveilleuse, mon père, vous n'avez pas idée. Quand on les a sentis à cet endroit-là, on les aime, que ce soit les siens ou les enfants des autres. Et c'est comme ça, pas autrement, que doivent sentir les petits-enfants. Et quand ils ne sentent pas comme ça, là-haut, derrière la tête, quand ils ne sentent rien que l'air froid, vous pouvez m'expliquer ça comme vous voulez, mon père, mais moi, Jeanne Bussy, je ne reprendrai pas ça chez moi. Et elle croisa résolument les bras sous ses seins, en jetant sur le panier à ses pieds un regard aussi dégoûté que s'il avait contenu des crapauds. Retrouvons Jean-Baptiste vers l'âge de 4 ans, au moment où il explore ses exceptionnelles capacités olfactives. Grenouille vit désormais chez une nouvelle nourrice prénommée Madame Gaillard, une femme dénuée d'affect et d'odorat, qui accueille chez elle une flopée d'enfants. Ces derniers se conduisent comme des brutes avec le jeune Grenouille, pressentant chez lui une étrangeté menaçante. Mais découvrons avec quelle félicité notre personnage renfermé apprend à parler, stimulé par un monde aux senteurs inépuisables. Ce n'est qu'à 3 ans qu'il se tint sur ses jambes. À 4, il prononça son premier mot. Ce fut le mot « poisson » qui jaillit de sa bouche en un moment de soudaine excitation, comme un écho du passé, tandis qu'un poissonnier remontait de loin la rue de Charonne en faisant l'article à grands cris. Il proférait uniquement les noms de choses concrètes, de plantes, d'animaux et d'êtres humains, et encore seulement quand ces choses lui faisaient soudain une forte impression olfactive. C'est par une belle journée de mars, comme il était assis sur un tas de bûches de hêtres qui craquaient au soleil, qu'il prononça pour la première fois le mot « bois ». Les bûches du dessus dégageaient une odeur sucrée et roussie. Du fond du tas montait une senteur de mousse, et les parois de sapin de la grange répandaient à la chaleur une odeur picotante de résine. Grenouille était assis sur ce tas, jambes allongées, le dos appuyé à la paroi de la grange. Il avait fermé les yeux et ne bougeait pas. Il ne voyait rien. Il n'entendait et ne ressentait rien. Il sentait uniquement l'odeur du bois qui montait autour de lui et restait pris sous l'avant-toit comme sous un été noir. Il buvait cette odeur. Il s'y noyait, s'y imprégnait par tous ses pores et jusqu'au plus profond, devenait bois lui-même, gisait comme une marionnette en bois, comme un Pinocchio sur l'amas de bois, comme mort. Jusqu'à ce qu'au bout d'un long moment, une demi-heure peut-être, il éructe enfin le mot « bois », comme s'il avait été bourré de bois jusqu'aux yeux, gavé de bois jusqu'à plus soif, rempli de bois du ventre au gosier et au nez. Voilà comment il vomit ce mot. Et cela le ramena à lui et le sauva. Juste avant que la présence écrasante du bois lui-même, son odeur, ne menaçât de l'étouffer. Il se secoua, se laissa glisser en bas du tas de bûches et s'éloigna d'un pas incertain, comme si ses jambes avaient été de bois. Bien des jours plus tard, il était encore si marqué par cette intense expérience olfactive que lorsque le souvenir en remontait en lui avec force, il bredouillait tout seul « bois, bois » pour la conjurer. C'est ainsi qu'il apprit à parler. Les mots qui ne désignaient pas d'objets odorants et par conséquent les notions abstraites, surtout d'ordre éthique et moral, lui posaient de graves problèmes. Il était incapable de les retenir, il les confondait, et même une fois adulte, il les employait encore à contre-cœur et souvent de façon erronée. Droit, conscience, Dieu, tout ce qu'on entendait exprimer par là était pour lui un mystère et le demeurait. Inversement, la langue courante n'aurait bientôt plus suffi pour désigner toutes les choses qu'il avait collectionnées en lui-même comme autant de notions olfactives. Bientôt, il ne se contenta plus de sentir le bois seulement. Il sentit les essences de bois, érable, chêne, pin, orme, poirier. Il sentit le bois vieux, jeune, moisi, pourrissant, moussu. Il sentit même telle bûche, tel copeau, tel grain de sciure et les distinguait à l'odeur mieux que d'autres gens n'eussent pu le faire à l'œil. À 6 ans, il avait totalement exploré olfactivement le monde qui l'entourait. Il n'y avait pas un objet dans la maison de Madame Gaillard et dans la partie nord de la rue de Charonne, pas un endroit, pas un être humain, pas un caillou, pas un arbre, un buisson ou une latte de palissade, pas le moindre pouce de terrain qu'il ne connut par l'odeur, ne reconnut de même et ne garda solidement en mémoire avec ce qu'il avait d'unique. C'était comme s'il avait appris tout seul et possédait un gigantesque vocabulaire d'odeurs, lui permettant de construire une quasi-infinité de phrases olfactives nouvelles.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Quelques années plus tard, Grenouille, âgée de 15 ans, éprouve sa première extase. Désormais apprenti tanneur, le jeune homme profite d'un moment de pause pour assister à un feu d'artifice depuis les quais de la Seine. Soudain, au milieu de la foule des badauds, un parfum tout à fait inconnu le saisit et l'aspire littéralement à lui. Tel un somnambule, il suit cette odeur exquise et subtile qui le guide comme un ruban dans les rues de la ville. Arrivé dans une arrière-cour de la rue du Marais, découvrons avec lui l'objet de cette irrésistible attraction. Une jeune fille était assise à cette table et préparait des mirabelles. Elle les puisait dans un panier à sa gauche, les équeutait et les dénoyautait au couteau, puis les laissait tomber dans un seau. Elle pouvait avoir 13 ou 14 ans. Grenouille s'immobilisa. Il sut aussitôt quelle était la source du parfum qu'il avait senti à une demi-lieue depuis l'autre rive du fleuve. Ce n'était pas cette arrière-cour miteuse, ni les mirabelles. Cette source était la jeune fille. L'espace d'un moment, il fut si désorienté qu'il pensa effectivement n'avoir jamais vu de sa vie quelque chose d'aussi beau que cette jeune fille. Pourtant, il ne voyait que sa silhouette à contre-jour. Ce qu'il voulait dire, naturellement, c'est que jamais il n'avait senti quelque chose d'aussi beau. Mais comme malgré tout il connaissait des odeurs humaines, des milliers et des milliers, des odeurs d'hommes, de femmes, d'enfants, il ne parvenait pas à comprendre qu'un parfum aussi exquis pût émaner d'un être humain. Habituellement, les êtres humains avaient une odeur insignifiante ou détestable. Les enfants sentaient fade, les hommes sentaient l'urine, la sueur aigre et le fromage, et les femmes la graisse rance et le poisson pas frais. Parfaitement inintéressante et répugnante, l'odeur des êtres humains. Et c'est ainsi que pour la première fois de sa vie, Grenouille n'en croyait pas son nez et devait requérir l'aide de ses yeux pour croire ce qu'il sentait. À vrai dire, cet égarement des sens ne dura pas longtemps. Il ne lui fallut en fait qu'un instant pour vérifier, et cela fait s'abandonner plus impétueusement encore aux perceptions de son odorat. Maintenant, il sentait qu'elle était un être humain. Il sentait la sueur de ses aisselles, le gras de ses cheveux, l'odeur de poisson de son sexe, et il les sentait avec délectation. Sa sueur fleurait aussi frais que le vent de mer, le sébum de sa chevelure aussi sucré que l'huile de noix, son sexe comme un bouquet de lys d'eau, sa peau comme les fleurs de l'abricotier. Et l'alliance de toutes ces composantes donnait un parfum tellement riche, tellement équilibré, tellement enchanteur que tout ce que Grenouille avait jusque-là senti en fait de parfum, toutes les constructions olfactives qu'il avait échafaudées par jeu en lui-même, tout cela se trouvait ravalé d'un coup à la pure insignifiance. 100 000 parfums paraissaient sans valeur comparés à celui-là. Ce parfum unique était le principe supérieur sur le modèle duquel devaient s'ordonner tous les autres. Il était la beauté pure. Pour Grenouille, il fut clair que sans la possession de ce parfum, sa vie n'avait plus de sens. Il fallait qu'il le connaisse jusque dans le plus petit détail, jusque dans la dernière et la plus délicate de ses ramifications. Le souvenir complexe qu'il pouvait en garder ne pouvait suffire. Ce parfum apothéotique, il entendait en laisser l'empreinte dans le fouillis de son âme noire, puis l'étudier minutieusement, telle une formule magique pour diriger sa pensée, sa vie, son odorat. Il s'avança lentement vers la jeune fille, s'approcha encore, pénétra sous l'auvent et s'immobilisa à un pas d'elle. Elle ne l'entendit pas. Elle était rousse et portait une robe grise, sans manches. Ses bras étaient très blancs et ses mains jaunies par les mirabelles qu'elle avait entaillées. Grenouille était penchée au-dessus d'elle et aspirait maintenant son parfum sans aucun mélange, tel qu'il montait de sa nuque, de ses cheveux, de l'échancrure de sa robe, et il en absorbait en lui le flot comme une douce brise. Jamais encore il ne s'était senti si bien. La jeune fille, en revanche, commençait à avoir froid. Elle ne voyait pas Grenouille, mais elle éprouvait une angoisse, un étrange frisson, comme on l'en ressent lorsqu'on est repris d'une peur ancienne dont on s'était défait. Elle avait l'impression qu'il passait derrière son dos un courant d'air froid, comme si quelqu'un avait poussé une porte donnant sur une cave gigantesque et froide. Et elle posa son couteau de cuisine, croisa ses bras sur sa poitrine et se retourna. Elle fut si pétrifiée de terreur en le voyant qu'il eut tout le temps de mettre ses mains autour de son cou. Elle ne tenta pas de crier, ne bougea pas, n'eut pas un mouvement pour se défendre. Lui, de son côté, ne la regardait pas. Ce visage fin, couvert de taches de rousseur, cette bouche rouge, ces grands yeux d'un vert lumineux, il ne les voyait pas, car il gardait les yeux soigneusement fermés, tandis qu'il l'étranglait, et n'avait d'autre souci que de ne pas perdre la moindre parcelle de son parfum. Quand elle fut morte, il l'étendit sur le sol au milieu des noyaux de Mirabelle et lui arracha sa robe. Alors le flot de parfum devint une marée. Elle le submergea de son effluve. Il fourra son visage sur sa peau et promena ses narines écarquillées de son ventre à sa poitrine et à son cou, sur son visage et dans ses cheveux, revint au ventre, descendit jusqu'au sexe, sur ses cuisses, le long de ses jambes blanches. Il la renifla intégralement, de la tête aux orteils. Il collecta les derniers restes de son parfum sur son menton, dans son nombril et dans les plis de ses bras repliés. Lorsqu'il l'eut sentie au point de la faner, il demeura encore un moment accroupi auprès d'elle pour se ressaisir, car il était plein d'elle, à non plus pouvoir. Il entendait ne rien renverser de ce parfum. Il fallait d'abord qu'il referme en lui toutes les cloisons étanches. Puis il se leva et s'en alla. Cette nuit-là, son réduit lui sembla un palais et sa couche un lit à baldaquin. Ce qu'était le bonheur, la vie ne lui avait pas appris jusque-là. Tout au plus connaissait-il de très rares états de morne contentement, mais à présent il tremblait de bonheur et ne pouvait dormir tant était grande sa félicité. Il avait l'impression de naître une seconde fois, ou plutôt non, pour la première fois, car jusque-là il n'avait existé que de façon purement animale, en n'ayant de lui-même qu'une connaissance extrêmement nébuleuse. À dater de ce jour, en revanche, il lui semblait savoir enfin qui il était vraiment. En l'occurrence, rien de moins qu'un génie, et que sa vie avait un sens et un but, et une fin, et une mission transcendante, celle, en l'occurrence, de révolutionner l'univers des odeurs, pas moins. Et qu'il était le seul au monde à disposer de tous les moyens que cela exigeait, à savoir son nez extraordinairement subtil, sa mémoire phénoménale, et plus important que tout, le parfum pénétrant de cette jeune fille de la rue des Marais, qui contenait comme une formule magique tout ce qui fait une belle et grande odeur, tout ce qui fait un parfum. Délicatesse, puissance, durée, diversité et une beauté irrésistible, effrayante. Il avait trouvé la boussole de sa vie à venir, et comme tous les scélérats de génie à qui un événement extérieur trace une voie droite dans le chaos de leur âme, Grenouille ne dévia plus de l'axe qu'il croyait avoir trouvé à son destin. Il comprenait maintenant clairement pourquoi il s'était cramponné à la vie avec autant d'obstination et d'acharnement. Il fallait qu'il soit un créateur de parfums, et pas n'importe lequel, le plus grand parfumeur de tous les temps. Peu après, Grenouille met son plan à exécution, accédant enfin au laboratoire d'un maître parfumeur, un certain Baldini.
Chénier, enfin vous voilà.
Monsieur Baldini.
Votre perruque, s'il vous plaît. Perruque, Chénier.
Vous alliez sortir ?
Je vais me retirer dans mon laboratoire quelques heures et je ne veux pas qu'on me dérange, sous aucun prétexte.
Vous voulez créer un nouveau parfum, monsieur Baldini ?
En panne d'inspiration et décidé à vendre sa boutique, Baldini accepte de laisser faire un essai au jeune novice. Et voici donc notre apprenti tanneur qui prend possession des lieux, choisissant à l'instinct les instruments et les précieuses fragrances sous le regard inquiet puis secrètement ébahi du maître. Apparemment au petit bonheur, Grenouille piochait dans la rangée de flacons contenant les essences, arrachait leurs bouchons de verre, reniflait une seconde le contenu, versait dans l'entonnoir un peu de l'un, y mettait quelques gouttes d'un autre, y envoyait une giclée d'un troisième, etc. Pipette, tube à essai, verre gradué, petite cuillère et agitateur, tous les instruments qui permettent au parfumeur de maîtriser la procédure compliquée du mélange, Grenouille ne les toucha pas une seule fois. On aurait dit un simple jeu, comme un enfant qui barbote et qui touille, prétendant préparer une soupe, alors qu'il fait un brouet infâme d'eau, d'herbe et de boue. Oui, comme un enfant, songea Baldini. D'ailleurs, soudain, On dirait un enfant, en dépit de ses mains trapues, de sa face pleine de cicatrices et de crevasses, et de son nez en patate comme celui d'un vieil homme. Je l'ai pris pour plus vieux qu'il n'est, et voilà maintenant qu'il me semble plus jeune. Il y avait un petit enfant fanatique dans ce jeune homme qui était debout devant la table, les yeux brillants, et avait oublié tout ce qui l'entourait, ne sachant manifestement plus qu'il y avait autre chose dans l'atelier que lui et ses bouteilles qu'il portait à l'entonnoir avec une balourdise précipitée pour fabriquer sa mixture aberrante. Baldini en avait des frissons de voir à la lumière vacillante des bougies cet être s'agiter avec tant d'affreuse assurance et tant d'affreuse ineptie. Le maître était à ce point occupé par son indignation intérieure qu'il ne comprit pas bien ce que cela pouvait signifier quand Grenouille, soudain, reboucha tous les flacons, retira l'entonnoir de la bouteille à mélanger et prenant celle-ci d'une main par le goulot et la bouchant du plat de sa main gauche, la secoua énergiquement. Le parfum était si divinement bon que Baldini en eut immédiatement les larmes aux yeux. Il n'avait pas besoin de faire un essai dans les règles. Il se tenait juste debout devant la table de travail où était la bouteille à mélanger et il respirait. Le parfum était magnifique. C'était comme une symphonie. C'était davantage encore. Baldini ferma les yeux et vit monter en lui les souvenirs les plus sublimes. Il se vit jeune homme traverser le soir les jardins de Naples. Il se vit dans les bras d'une femme aux boucles noires et vit la silhouette d'un bouquet de roses sur le rebord de la fenêtre par où soufflait une brise nocturne. Il entendit des chants d'oiseaux qui se faisaient écho et la musique lointaine d'une taverne du port. Il entendit un chuchotement à son oreille. Il entendit un « je t'aime » et sentit la volupté lui hérisser le poil, là maintenant, à cet instant même. Il ouvrit brusquement les yeux et poussa un grand soupir de plaisir. Ce parfum n'était pas un parfum comme on en connaissait jusque-là. Ce n'était pas un parfum qui vous donne une meilleure odeur, pas un sang bon, pas un produit de toilette. C'était une chose entièrement nouvelle, capable de créer par elle-même tout un univers luxuriant et enchanté, où l'on oubliait d'un coup tout ce que le monde alentour avait de dégoûtant, et on se sentait si riche, si bien, si libre, si bon. De 3 ans, il a acquis les codes de la parfumerie et élaboré une infinité de parfums au succès retentissant. À 18 ans, il quitte Paris et la maison Baldini et prend le chemin de Grasse. Mais en traversant le Cantal, il goûte pour la première fois un air pur et découvre soudain qu'il ne dégage aucune odeur corporelle. Dès lors, il n'a qu'une obsession: se créer un parfum qui camouflerait sa différence. Suivons notre apprenti sorcier dans le laboratoire d'un petit parfumeur à Montpellier, nommé Runel, alors qu'il invente avec les moyens du bord un ersatz d'odeur humaine. L'atelier et la boutique de Runel étaient loin d'être approvisionnés comme naguère la parfumerie de Baldini à Paris. Quelques huiles de fleurs, quelques eaux, quelques épices. Un parfumeur moyen n'aurait guère pu en tirer des merveilles. Mais Grenouille flaira d'un coup, dès l'entrée, que les ingrédients disponibles suffiraient tout à fait pour ce qu'il voulait faire. Il ne voulait pas inventer une combinaison prestigieuse comme pour Baldini dans le temps, quelque chose qui émerge de l'océan de la médiocrité et tourne la tête aux gens. Il voulait prendre cette odeur d'être humain qu'il ne possédait pas. Certes, il n'y avait pas une odeur d'être humain, pas plus qu'il n'y avait un visage humain. Chaque être humain avait une odeur différente. Nul ne le savait mieux que Grenouille, qui connaissait des milliers d'odeurs individuelles et qui, depuis sa naissance, distinguait les gens au flair. Et pourtant, il y avait un thème fondamental de l'odeur humaine, et au demeurant passablement simpliste, une base continue, graisseuse, sudatoire, aigrelette, comme du fromage, et pour tout dire assez répugnante, que tous les humains avaient en commun, et au-dessus de laquelle flottaient ensuite les petits nuages infiniment diversifiés qui donnaient les auras individuelles. La plupart des gens ne savaient pas qu'ils avaient une odeur personnelle, et du reste, ils faisaient tout pour la dissimuler sous leurs vêtements ou bien sous des senteurs artificielles à la mode. Il n'y avait que cette odeur fondamentale, cette fragrance primitive d'humanité qui leur fut familière. Ils vivaient dedans et s'y sentaient bien à l'abri, et il suffisait d'exhaler cette répugnante odeur universelle pour être reconnu comme l'un des leurs. C'est un étrange parfum que Grenouille créa ce jour-là. Le monde n'en avait jamais connu de plus étrange. Il ne sentait pas comme un parfum, mais comme un homme qui sent. Si l'on avait senti ce parfum dans une pièce obscure, on aurait cru qu'il s'y trouvait un second être humain. Et s'il avait été employé par un humain, ayant par lui-même l'odeur humaine, on aurait eu l'impression olfactive d'avoir affaire à deux êtres humains, ou pire encore, à une créature monstrueusement double. Pour imiter cette odeur humaine, de façon fort imparfaite, il le savait lui-même, mais assez habilement tout de même pour abuser les autres, Grenouille chercha dans l'atelier de Runel les ingrédients les plus insolites. Derrière le seuil de la porte qui donnait dans la cour, il trouva relativement fraîche encore une crotte de chat. Il en préleva la moitié d'une petite cuillère, qu'il mit dans la bouteille à mélanger, en même temps que quelques gouttes de vinaigre et du sel fin. Sous la paillasse du laboratoire, il découvrit une miette de fromage, grosse comme l'ongle du pouce, et provenant manifestement d'un casse-croûte de Runel. Elle était déjà assez ancienne, commençait à se décomposer, et dégageait une odeur aigre et forte. Sur le couvercle d'une caque de sardines qui se trouvait dans l'arrière-boutique, il détacha une raclure indéfinissable sentant le poisson rance, qu'il mélangea avec de l'œuf pourri, de l'ammoniaque, de la muscade, de la corne râpée et de la couenne de porc brûlée et finement émiettée. Il ajouta une assez forte dose de civette, étendit d'alcool ces horribles composants, laissa reposer et filtra dans une seconde bouteille. Cette mixture avait une odeur épouvantable. Elle puait comme un égout, comme une charogne, et lorsqu'on diluait ses effluves d'un coup d'éventail avec un peu d'air pur, on se croyait à Paris, au coin de la rue au fer et de la rue de la lingerie, là où se rencontraient les odeurs des halles, du cimetière des innocents et des immeubles surpeuplés. Sur cette base affreuse qui de fait sentait moins l'homme que le cadavre, Grenouille mit une couche de senteur d'huile fraîche, menthe poivrée, lavande, térébenthine, citron vert, eucalyptus, lesquels à leur tour il réfréna et en même temps déguisa plaisamment sous un bouquet de subtiles huiles florales comme le géranium, la rose, la fleur d'oranger et le jasmin. Une fois étendu de nouveau avec de l'alcool et une pointe de vinaigre, ce mélange avait perdu l'odeur répugnante qui en était la base. Grâce à la fraîcheur des ingrédients ainsi rajoutés, la puanteur latente s'était perdue jusqu'à être imperceptible. Le parfum des fleurs avait enjolivé l'exhalaison fétide, la rendant quasi intéressante, et curieusement, rien, plus rien ne rappelait l'odeur de décomposition. Au contraire, le parfum paraissait dégager une allègre et vigoureuse senteur de vie. Pour finir, il se déshabilla entièrement et aspergea ses vêtements avec ce parfum. Puis il s'en humecta les aisselles, s'en mit entre les orteils, sur le sexe, sur la poitrine, dans le cou, derrière les oreilles et dans les cheveux, se rhabilla et quitta l'atelier. Ainsi, paré de sa nouvelle aura, il arpenta les ruelles de Montpellier, éprouvant nettement son nouvel effet sur les gens. Les hommes, les femmes et les enfants qui le bousculaient l'inhalaient comme si c'était l'odeur d'un congénère. Lui, Grenouille, le vilain petit canard au milieu de la couvée, il l'acceptait comme un être humain parmi leurs semblables. Fort de ce succès, Grenouille veut aller encore plus loin et réaliser un parfum surhumain destiné à ensorceler quiconque le sentirait. Parvenu à Grasse, il entre au service de la veuve d'un parfumeur pour y apprendre la subtile technique de l'enfleurage. Grenouille rêve de créer un parfum grandiose et inégalé, né de son monde intérieur, un parfum contenant l'essence de la séduction. Pour parvenir à ses fins, il convoite la senteur des êtres qui suscitent l'admiration et l'amour, à savoir les plus belles jeunes filles de la région.
Je crée un parfum. Allonge-toi, s'il te plaît.
Ah, c'est dégoûtant, ce machin.
Ce n'est que de la graisse animale pour absorber ton odeur.
Tu crées des parfums, tu parles. Allez, quoi, admets-le, tu prends ton pied comme ça, c'est pas vrai?
J'adore mon travail. Laisse ton bras comme ça.
Ne crois surtout pas que tu vas m'attacher.
Reste tranquille, s'il te plaît.
J'en ai croisé plein des types curieux dans mon métier.
Non. Détends-toi.
Jésus-Marie, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est pour racler la graisse.
T'es malade?
Reste tranquille, ou tu vas tout gâcher.
Après avoir commis une série de meurtres, Jean-Baptiste Grenouille s'empare de l'essence de 25 jeunes vierges. Retrouvons-le alors qu'il vient de pénétrer dans la chambre de sa dernière victime, une magnifique rousse de 16 ans, la fille du consul de Grasse. Il se tourna vers le lit. C'était le parfum de ses cheveux qui dominait, car elle était couchée sur le ventre et son visage, entouré par son bras replié, était enfoui dans l'oreiller, si bien que sa nuque s'offrait de manière véritablement idéale à la matraque. Le bruit du cou fut sourd et accompagné d'un crissement. Grenouille détesta ce bruit. Ne fût-ce que parce que c'était un bruit au milieu d'une tâche par ailleurs silencieuse. Il dut serrer les dents pour supporter ce bruit répugnant, et quand ce fut fini, il resta encore un moment raide et contracté, la main crispée sur la matraque. Bientôt Grenouille relâcha sa crispation, il rangea la matraque et ne fut plus dorénavant habité que par un affairement assidu. En premier lieu, il déploya le linge d'enfleurage et l'étala souplement, sur la table et des chaises, en veillant à ce que le côté gras ne touche rien. Puis il rabattit le dessus de lit. Le magnifique parfum de la jeune fille, libéré soudain dans une bouffée chaude et puissante, ne l'émut pas. Car enfin il le connaissait. Et il n'en jouirait jusqu'à l'ivresse que plus tard, une fois qu'il le posséderait vraiment. Pour l'instant, il s'agissait d'en capter le plus possible, d'en répandre le moins possible à côté. Pour l'instant, il fallait se concentrer et faire vite. À coups de ciseaux rapides, il fendit la chemise de nuit et la lui ôta, saisit le linge enduit de graisse et en recouvrit son corps nu. Puis il la souleva, fit passer le linge sous elle, l'y enroula comme un pâtissier refermant un chausson, replia les extrémités, l'enveloppant depuis les orteils jusqu'au front. Seule la chevelure dépassait encore de cette gangue de momie. Il la coupa au ras du cuir chevelu et l'emballa dans la chemise de nuit, qu'il ficela en un paquet. Enfin, il rabattit un coin libre du linge sur le crâne rasé et en lissa l'extrémité qu'il tapota délicatement du bout des doigts pour qu'elle adhère bien. Il vérifia l'ensemble de cet emballage. Aucune fente, aucun petit trou, aucun petit pli béant ne pouvait laisser échapper le parfum de la jeune fille. Elle était parfaitement enveloppée. Il n'y avait plus rien à faire qu'à attendre pendant 6 heures jusqu'au petit matin. Quand les oiseaux commencèrent à crier, donc un bon moment avant l'aurore, il se leva et acheva son travail. Il déplia le linge et le décolla de la morte comme un emplâtre. La graisse se détachait bien de la peau. Il n'y avait que dans les recoins que quelques restes demeuraient accrochés, qu'il dut racler à la spatule. Les autres traces de pommade, il les essuya avec sa propre chemise de jour, avec laquelle il frictionna finalement le corps de la tête aux pieds, si consciencieusement qu'il se formait sur la peau de petits grumeaux de sébum, emportant avec eux les dernières miettes et les dernières poussières de son parfum. Maintenant seulement, elle était là pour lui, vraiment morte, fanée, pâle et molle comme des déchets de fleurs.
Guillaume Gallienne sur France Inter. Ça peut pas faire de mal.
Je tiens la main de ma mère et quelques fleurs qui sentent un parfum amer et qui m'écœurent. Les fleurs qui embaument les cimetières, c'est l'haleine des fantômes qui sort des pierres. J'ai peur qu'on m'entende quand je pleure. J'ai peur qu'on prétende que j'ai un cœur. Des voisins embarrassés et des parents se penche pour m'embrasser en murmurant. La pluie tombe en rang serré, je frissonne. J'ôte l'eau de mon béret et le glace. J'ai peur qu'on m'entende quand je pleure. J'ai peur qu'on prétende que j'ai un cœur. Je vois un ver de terre, un oiseau mort, une boîte qu'on enterre comme un trésor. Je tiens la main de ma mère et quelques fleurs.
Concluons ce récit avec une scène d'ivresse collective en guise de bouquet final. Après avoir semé la terreur autour de lui, notre assassin finit par être identifié, arrêté et condamné à mort.
Le compagnon parfumeur Jean-Baptiste Grenouille sera attaché sur une croix de bois avec le visage tourné face au ciel. Et alors qu'il sera encore vivant, il recevra 12 coups de barre de fer qui lui briseront les articulations des jambes, des bras, des épaules et des hanches. Ensuite, il sera pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout acte de miséricorde sera expressément interdit à l'exécuteur des hautes œuvres.
En ce mois d'avril 1766, toute la ville est rassemblée pour assister à l'exécution tant attendue du meurtrier en série. Mais alors que Jean-Baptiste Grenouille est conduit à l'échafaud pour y recevoir 12 coups de barre de fer jusqu'à ce que mort s'en suive, notre funeste héros, paré de son parfum ensorceleur, crée sur la foule un effet on ne peut plus inattendu. Il portait un habit bleu, une chemise blanche, des bas de soie blancs et des escarpins noirs. Il n'était pas enchaîné. Personne ne le tenait par le bras. Il descendait de voiture comme un homme libre. Et il se produisit alors un miracle. Les 10 000 personnes massées sur le cours et sur les pentes environnantes furent instantanément pénétrées de la conviction inébranlable que ce petit homme en habit bleu en train de descendre de la voiture, il était impossible qu'il fût un meurtrier. Non qu'ils aient douté de son identité, c'était bien la même personne que peu de jours auparavant, ils auraient lynché avec une haine furieuse. C'était le même homme qui 2 jours plus tôt avait été condamné en bonne et due forme sur des preuves écrasantes et sur la foi de ses propres aveux. Le même homme dont, une minute avant, ils attendaient goulûment l'exécution par le bourreau. C'était lui, indubitablement. Et pourtant, en même temps, ce n'était pas lui. Ce ne pouvait pas être lui, celui-ci ne pouvait pas être un meurtrier. L'homme qui était là, debout, sur le lieu de l'exécution, était l'innocence en personne. Tous le savaient en ce moment, de l'évêque au limonadier, de la marquise à la petite blanchisseuse, du président du tribunal jusqu'au gamin des rues. Les 10 000 hommes et femmes, enfants et vieillards qui étaient rassemblés là ressentaient tous une faiblesse de petite fille succombant au charme de son amoureux. Ils étaient envahis d'un sentiment puissant d'affection, de tendresse, d'entichement éperdu et puéril, oui, par Dieu, d'amour pour le petit scélérat. Et ils ne pouvaient, ne voulait rien faire là contre. C'était comme une envie de pleurer qu'on ne peut réprimer, qu'on a retenue longtemps et qui monte du ventre, faisant fondre comme par miracle toute résistance, inondant et liquéfiant tout. Ces gens fondaient complètement, se dissolvaient d'âme et d'esprit, n'étaient plus qu'un liquide amorphe. Ils ne sentaient plus en eux-mêmes que leur cœur comme une masse flottante, que chacun et chacune déposait entre les mains du petit homme en habit bleu, pour le meilleur et pour le pire. Il l'aimait. Cela faisait déjà bien plusieurs minutes que Grenouille était debout devant la portière ouverte de la voiture et qu'il ne bougeait pas. Le laquais qui était près de lui était tombé à genoux. L'officier de la garde et le lieutenant de police n'étaient plus capables de se conduire de façon cohérente. Ils pleuraient et ôtaient leurs chapeaux, s'en recoiffaient, les jetaient sur le sol, se tombaient dans les bras l'un de l'autre, se tordaient les mains, agités de convulsions et de grimaces comme s'ils avaient eu la danse de Saint-Guy. Les notables assis plus loin s'abandonnaient à leur émotion, de manière à peine plus discrète. Chacun laissait libre cours à l'élan de son cœur. Il y avait des dames qui regardaient Grenouille en serrant leurs poings dans leurs girons et en gémissant de volupté, et d'autres que leur brûlant désir de ce splendide éphèbe, car c'était ainsi qu'il leur apparaissait, faisait purement et simplement tomber en pâmoison. Cependant, le peuple derrière la barricade s'abandonnait d'une manière de plus en plus éhontée à l'effrayante ivresse affective qu'avait déclenchée l'apparition de Grenouille. Tous tenaient l'homme en habit pour l'être le plus beau, le plus séduisant et le plus parfait qu'ils pussent imaginer. Les nonnes voyaient en lui le sauveur en personne, les suppôts de Satan, le radieux prince des ténèbres, les philosophes, l'être suprême, les jeunes filles, un prince de contes de fées, les hommes, un reflet idéal d'eux-mêmes. Et tous se sentaient mis à nu et empoignés par lui à leur endroit le plus sensible. Il avait touché au centre même de leur érotisme. C'était comme si cet homme avait eu 10 000 mains invisibles et qu'à chacune de ces 10 000 personnes qui l'entouraient, il avait mis la main sur le sexe et le caressait exactement de la façon que chacune d'entre elles, homme ou femme, désirait le plus dans ses fantasmes les plus secrets. La conséquence en fut que l'exécution prévue de l'un des criminels les plus abominables de son époque dégénéra en la plus grande bacchanale que le monde eût connue depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ. De vertueuses épouses arrachaient leurs corsages, dénudaient leurs seins avec des cris hystériques, se jetaient sur le sol en retroussant leurs jupes. Les hommes, les yeux égarés, parcouraient en titubant ce champ de chair écartelé et lubrique. Ils extrayaient de leurs culottes avec des doigts tremblants des membres raidis par quelque invisible gelée, s'abattaient avec un râle n'importe où, copulaient dans les positions et les configurations les plus impossibles. Le vieillard avec la vierge, le journalier avec l'épouse de l'avocat, le petit apprenti avec la nonne, le jésuite avec la franc-maçonne, tout mélangé comme cela se trouvait. L'air était lourd de la sueur sucrée de la jouissance et tout plein des cris, des grognements et des gémissements de 10 000 bêtes humaines. C'était infernal.
Chacun voit en Grenouille la perfection dont il rêve. Hein.
Guillaume Bardet.
Les nonnes y voient Dieu, ou l'être suprême hein, pour les libres penseurs. Bref, chacun n'est renvoyé qu'à lui-même et chacun s'aime lui-même. Le seul qui est absent, qui danse pas dans cette histoire, si on peut dire, c'est Grenouille. Il déclenche comme ça, alors moins l'amour en effet que le désir, une sorte de désir exacerbé, extraordinaire. Et je pense que ça tient au fait aussi que le parfum qu'il a créé est un parfum de désir, un parfum de manque, un parfum... précisément, le propre du parfum, c'est de restituer ce dont on est privé. Mais en même temps, ça ne donne jamais que l'absence de ce dont on rêve, le parfum, de ce dont on est privé.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Valérie Lavalard à la technique a été préparée par Fanny Leroy, Estelle Gap, Léla Kouo-Séliquois, Perrine Maninge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.